Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève. La semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore : À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu.
Il expliquait tout à ses disciples. Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Nous sommes capables d'entendre la parole dans la mesure où nous sommes disciples de Jésus. Puissions-nous être tous des disciples ? Il faut reconnaître que même les apôtres n'ont pas compris tout ce que Jésus leur disait, mais c'est après la résurrection et surtout après la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est venu sur eux, que tout est devenu clair et qu'ils ont annoncé avec force, avec courage, cette parole nouvelle. Puissions-nous nous-mêmes, en étant disciples du Seigneur, nous laisser combler par l'Esprit Saint afin d'entrer dans la plénitude de la connaissance, comme dirait saint Paul, pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Jésus donc parle en parabole pour parler du royaume. Chaque parabole révèle un aspect du royaume. Il y a les paraboles de la miséricorde, il y a les paraboles du bon semeur, les paraboles que nous connaissons par cœur. Aujourd'hui, cette parabole, deux petites paraboles particulières pour parler du royaume. La parabole de la graine qui pousse, en dépit de tous les efforts du cultivateur, sa seule charge à lui, sa seule mission est de semer la graine, qui, qu'il dorme ou qu'il veille, qu'il se lève, produit son fruit par elle-même, la terre donne son fruit. La semence, la croissance ne nous appartient pas. La semence, ce n'est pas nous qui la fabriquons. La croissance, ce n'est pas nous qui la donnons. La seule chose que nous puissions donner, nous, c'est la semence jetée en terre. Et puis la deuxième parabole, la petite graine, toute petite, la plus petite de toutes, qui devient un grand arbre, qui devient un grand plant sous lequel les oiseaux du ciel viennent faire leur nid. Aujourd'hui, ces paraboles nous incitent surtout à la confiance et à l'espérance. Nous aimerions bien savoir ce que Dieu fait. Et de fait, surtout dans des périodes troublées comme la nôtre, À vrai dire, est-ce qu'il y a une période de l'histoire qui n'a pas été troublée? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, elle est troublée d'une manière différente un peu à chaque époque. Ce que nous pouvons dire, en tout cas, c'est que notre époque, à nous, est troublée, plus que troublée. Et il peut se faire que nous soyons parfois désorientés, voire découragés, devant ces violences du monde, devant les crises de l'Église, devant les difficultés personnelles que nous rencontrons. Nous sommes tentés de poser cette question, et nous la posons de fait parfois. Où est Dieu? Que fait Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Est-ce que Dieu agit vraiment? Le découragement guette tout le monde. De fait, il y a ces trois grandes dimensions, la dimension du monde, la dimension de nos pays. Notre pays aujourd'hui est en grand danger, mais à vrai dire, c'est l'Europe et le monde tout entier qui est en danger. Nous le savons bien, nous le savons trop bien. Agité par des opinions contraires, agité par une violence totalement erratique, totalement absurde. Le démon divise encore, le démon agite et se sert de la moindre brèche pour diviser. Et puis, il y a l'Église. L'Église, c'est une institution divine, mais qui est constituée d'hommes pauvres et pécheurs. Et de fait, l'Église, elle aussi, est secouée par des crises récurrentes. Actuellement, toutes ces crises se traduisent par les abus que nous avons dont nous avons tellement entendu parler ces dernières années, mais aussi des crises matérielles, des diocèses entiers qui font faillite. On ne sait pas comment rétribuer les prêtres, on ne sait pas comment rétribuer les gens qui travaillent pour le diocèse. Des diocèses qui sont en perte de vitesse matériellement et humainement. Comment répondre à tous les besoins? Comment répondre à toutes les urgences alors que les hommes se font rares, que les vocations sont tellement pauvres, que les réponses ne sont pas si simples? Et puis, il y a aussi la dimension personnelle. Nous cherchons la sainteté, nous cherchons à être proches de Dieu. Et quand nous réfléchissons, quand nous regardons notre vie, nous sommes parfois découragés, nous sommes parfois désorientés parce que nous sommes pécheurs, et que nous restons terriblement pécheurs. Des péchés qui nous tiennent, des péchés qui nous lient, des péchés dont nous aimerions bien sortir, mais qui parfois nous font tomber et retomber sans cesse. Où est Dieu? Que fait Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment au milieu de nous, oui ou non? C'est une tentation qui est vieille comme l'Église, vieille comme le peuple d'Israël. Quand le peuple traversait le désert, il avait cette tentation forte de récriminer contre Dieu. Est-ce que Dieu n'aurait même pas été jusqu'à faire sortir son peuple d'Égypte pour le perdre au désert? Cette question peut devenir finalement même une révolte contre Dieu. Nous le savons bien et nous le voyons autour de nous parfois. C'est dans ce contexte de grande inquiétude que la première lecture présentait la résolution de Dieu. C'était le livre d'Ézéchiel que nous avons lu tout de suite. Le peuple avait été décimé, Jérusalem avait été entièrement rasée et détruite, le peuple avait été déporté à Babylone, et par la bouche d'Ézéchiel, Dieu l'annonce. Je prendrai une tige à la cime du grand cèdre, j'en cueillerai une toute jeune, je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. La montagne très élevée, c'est bien sûr Israël, mais c'est surtout Jérusalem dans Israël. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai, elle portera des rameaux. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. C'était des images qui existaient déjà donc dans la culture biblique, dans la mentalité juive de l'époque de Jésus. Et avec cette ferme parole de Dieu, j'ai parlé et je le ferai. Moi, je fais sécher l'arbre vert, reverdir l'arbre sec, je renverse l'arbre élevé, je relève l'arbre renversé. La Vierge Marie, dans son Magnificat, reprendra ces paroles. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés. Il renvoie les riches les mains vides, il renverse les puissants de leur trône. C'est vrai, Dieu est tout puissant. Dieu parle, Dieu dit et il le fait. C'est sur cette foi que nous sommes établis. Dieu est, Dieu agit indépendamment de l'homme. Il agit quoi qu'il arrive, il agit à sa manière de Dieu. Et puis la deuxième lecture, la lettre aux Corinthiens, deuxième aux Corinthiens, où saint Paul dit que nous cheminons dans la foi, non pas dans la clairvision. Tant que nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Et pourtant, nous avançons vers lui, nous avons confiance. C'est vrai que nous voudrions quitter ce corps le plus vite possible pour être auprès du Seigneur, mais au fond, quoi qu'il arrive et de toutes les manières, notre ambition c'est de plaire au Seigneur, dit-il. Notre ambition c'est que le Seigneur soit connu, aimé, pourvu que le Christ soit annoncé, que je vive ou que je meure, finalement, ça n'a que peu d'importance. Nous marchons dans la nuit, mais nous avons confiance. Et puis surtout, évidemment, l'Évangile. L'Évangile qui est, à la première lecture, pas si simple, mais qui pourtant est une grande lumière. L'homme sème. Ensuite, il ne sait comment, qu'il se lève ou qu'il s'éveille. Quoi qu'il fasse, la graine donne l'herbe, puis l'épi, et puis du blé plein l'épi, et puis on fait la moisson quand le temps est venu. Ce mystère ne nous appartient pas. Le Seigneur fait sans nous dire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il arrive parfois qu'en se retournant sur notre route, nous apercevions que tout est cousu de fil blanc. Dieu agissait, mais je ne le savais pas. Dieu était présent, je ne le savais pas. Dieu agit d'une façon étonnante, quelquefois en prenant ce qui nous semble être des détours, mais Dieu patiente, Dieu prend le temps. Toute la question pour Dieu, et nous l'avons dit mille fois, c'est d'aider l'homme à accueillir, de préparer l'homme pour qu'il reçoive la parole du royaume, de préparer l'homme pour que son cœur s'ouvre au don de Dieu sans contraindre sa liberté. Sans contraindre sa liberté. Autrement dit, Dieu agit, mais il agit sans contraindre l'homme. L'homme n'est pas une marionnette. L'homme n'agit pas selon des processus automatiques. L'homme ne doit pas être contraint de faire ceci ou de faire cela. L'homme va selon ce qu'il est, avec ce qu'il est, avec la sainteté qu'il a reçue au baptême et qui grandit en lui, mais aussi avec son péché qui demeure. Et Dieu agit à travers tout cela pour construire son royaume. C'est mystérieux, mais c'est réel. De fait, nous sommes tous les mêmes, nous avançons sans voir où nous allons. Nous avançons dans le monde sans voir où le monde va. Et nous sommes souvent pris d'inquiétude, une inquiétude qui peut ressembler à une frayeur. Mais la foi nous affirme que Dieu est présent et que tout lui appartient et que Dieu fait. Au fond, quand nous regardons comment Dieu a agi avec Jésus, le Verbe éternel fait chair, un bébé, un nourrisson couché dans la paille, couché dans la crèche. Pendant 30 ans, il est resté caché à Nazareth. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Quels sont les desseins du Seigneur? Quel mystère? Ça nous échappe complètement. Il semble que Jésus ait accompli une vie qui est absurde puisqu'elle se termine lamentablement sur la croix. Un échec épouvantable. D'ailleurs, les apôtres s'en vont tous, sauf Jean, parce qu'ils ont peur, sont effrayés. Ils ne comprennent pas ce que Jésus veut. Ils ne comprendront même pas encore au moment de la résurrection. Il faudra vraiment la Pentecôte, encore une fois, pour qu'ils soient illuminés du dedans et comprennent que Dieu mène son Église par ses chemins à lui. Des chemins qui sont aussi élevés de nos chemins que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Mais Dieu est présent, il veille sur chacun de nous. Et si nous sommes ses disciples, si nous obéissons simplement à ses commandements, alors nous sommes d'une façon sûre et certaine menés vers le terme, c'est-à-dire menés vers l'accomplissement de nos vies, vers notre épanouissement plénier, vers la sainteté. Et il en va de nous comme il en va de l'Église, Il en va de l'Église comme il en va du monde entier, de l'humanité tout entière. Et cette graine qui donne son fruit, elle est étonnante encore parce que parfois c'est la plus petite de toutes les graines, quelque chose qui est comme imperceptible et qui finalement, au bout du processus, donnera un grand arbre, un arbre magnifique dans lequel tous les oiseaux du ciel pourront faire leur nid. L'Église si pauvre, l'Église qui est descendue de son piédestal, l'Église qui a d'ailleurs commencé avec 11 hommes, parce que le 12e a renié, le 12e a trahi, 11 hommes qui ont été envoyés dans le monde sans armes, sans argent, sans tunique de rechange, sans argent pour le voyage. Cette Église qui petit à petit est devenue puissante, nous l'avions dit il y a quelques semaines, qui est devenue puissante au milieu des nations, a été finalement renversée. Une Église devenue si pauvre de nos jours, une Église qui est humiliée, une Église qui est tombée, mais une Église qui finalement donnera malgré tout le royaume de Dieu, une Église qui est la semence de gloire dans nos cœurs, la semence de gloire qui rayonnera partout, de sorte que seul celui qui va à sa perte sera perdu, mais que tous les autres, tous ceux qui le désirent, tous ceux qui l'accueillent, tous ceux qui le veulent bien, seront sauvés. Regardons la Vierge Marie, la plus petite de toutes, une humble Vierge d'Israël, inconnue. C'est elle qui est la servante du Seigneur, humble servante. Il a regardé l'humilité de sa servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse, dit-elle. Elle a conscience d'avoir été choisie mystérieusement, elle, la plus petite, pour être la mère de Dieu, la mère du Sauveur. Oui, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Aujourd'hui, dans les difficultés du monde, dans les drames que nous vivons, exultons de joie déjà. Exaltons la gloire du Seigneur qui, à travers nous, nous le croyons, se révélera comme le puissant, celui qui peut tout, celui qui accomplit tout. Amen.